Vous qui venez à l'Église très souvent et qui venez à l'Église depuis très longtemps déjà, pour vous c'est important. Vous en avez entendu des homilies, n'est-ce pas? Des sermons au fil des années. Autrefois on appelait ça des sermons, aujourd'hui on n'utilise plus beaucoup ce terme-là, on parle plutôt d'homilie, mais l'idée demeure la même. On demande au ministre ordonné à l'intérieur de la liturgie d'offrir un commentaire, une réflexion sur les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui fait un bon sermon ou une belle homilie? Probablement, vous me répondriez, c'est quand on comprend ce qui est dit, et puis que ça vient nous chercher dans notre vie quotidienne, que ça vient répondre à des questions, à des interrogations, à des difficultés. Si c'est trop théorique, ça ne nous aide pas. On veut que ce soit du concret. C'est donc intéressant pour nous de voir des exemples de gens qui ont fait des sermons ou des homilies dans le passé. Et quoi de plus intéressant que d'aller voir quel genre d'homilie ou de sermon faisaient les apôtres, parce que c'était les premiers qui devraient nous inspirer. On en entend un long sermon. C'est un des premiers sermons de Paul après sa conversion, et c'en est tout un. On en entend juste la moitié. À ce moment-là, Paul, on se rappelle, hier avait été transféré du côté de l'île de Chypre. Il s'est passé quelques événements du côté de l'île de Chypre qu'on n'entend pas, on a sauté des versets. Et là, il décide avec Barnabé de se rendre du côté de l'Asie mineure. Et de ce côté-là, il s'en va à Antioche de Pisidie, à ne pas confondre avec Antioche de Syrie, dont on a entendu parler. Et là, il va rester là 2 semaines. Donc, il se présente dans la synagogue parce que Paul prend toujours à cœur d'abord d'offrir la parole à la synagogue, d'abord aux Juifs. Il va rester là 2 semaines, donc 2 sabbats, il va s'adresser à l'Assemblée. Le premier sermon, on en entend la moitié aujourd'hui, on devra en entendre la moitié demain, mais demain, il y a une mémoire particulière au Canada qui va faire en sorte qu'on ne l'entendra pas. Je pense que ce serait samedi, on devrait entendre ce qui se produit lors de du deuxième sabbat et de ce deuxième sermon. Et à cette occasion-là, on dit qu'il faut croire que ça marche, les sermons de Paul, que la ville entière va s'être assemblée. Et pourtant, lors de ce deuxième... Donc, ça veut dire que ce que dit Paul ici présentement va avoir un impact dans le temps sur ce qui va se produire la semaine suivante. Cependant, on sait que malheureusement, au terme de ce court séjour à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé vont se secouer la poussière de leurs pieds. Parce qu'une fois qu'ils auront annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a un bon nombre d'opposants qui vont devenir éloquents dans leur manière de renier Paul et Barnabé et ce qu'ils offrent, qu'ils vont les chasser d'Antioche de Pisidie. Ainsi donc, ce ne sont pas toujours les sermons, pas toujours la portée qu'on voudrait. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner dans ce texte, la première moitié du sermon de Paul, c'est cette affirmation qui est proposée dans les évangiles, ce témoignage que Jean fait par rapport à Jésus en disant « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. » Il y en a un qui vient après moi, je ne suis pas digne de lui retirer la courroie de ses sandales. Donc, Paul ici cite finalement les évangiles, un témoignage de que fait Jean-Baptiste par rapport à Jésus. On connaît, nous, quelqu'un qui n'a pas hésité à se nouer le tablier, à se mettre à genoux aux pieds de ses disciples et à leur laver les pieds, n'est-ce pas? Il s'agit bien de Jésus lui-même lors de la dernière scène. Et le texte de l'Évangile, tiré du chapitre 13, verset 16, c'est le verset qui suit exactement le lavement des pieds dans l'Évangile selon saint Jean. Un texte que nous avons entendu lors du Jeudi Saint, lors de la messe en l'honneur de la Sainte du Seigneur. Le dernier verset, on s'en rappelle, Jésus qui dit « Ce que j'ai fait pour vous, je vous invite à le faire les uns pour les autres. » Donc, servez-vous. Ça, c'est au verset 15. On enchaîne tout de suite. Donc, et il y a un verset qui est ajouté pour faire le lien. « Après avoir les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus, en effet, est en train de nous enseigner que quiconque veut se mettre à sa suite doit être prêt à servir. Servir comme lui, Jésus l'a fait, car il a donné sa vie par amour pour nous, par en esprit de service. Et il faut être capable d'accueillir ceux qui parlent au nom de Jésus et qui eux-mêmes seront appelés à servir. C'est le dernier verset de l'Évangile. « Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Moi, je trouve que ça fait un beau lien avec la scène du jour, Sainte Catherine de Sienne, qui n'a pas eu d'autre passion au cœur de sa vie que de servir ceux qui étaient envoyés de Dieu pour représenter le Christ sur la terre, c'est-à-dire le pape lui-même, notre Saint-Père le pape. À son époque, au 14e siècle, l'Église vit de très grandes difficultés. On est en train de sortir radicalement du Moyen Âge, à une époque où toutes les institutions civiles en Europe s'étant écroulées. C'était l'Église qui était la seule institution capable de tenir la société ensemble. Alors, c'était le gouvernement, c'était l'administration temporelle, c'était l'armée, les frontières, c'était le pape était un chef d'État. Mais les choses étaient en train de changer depuis déjà un bon nombre d'années à l'époque de Sainte Catherine de Sienne. Et là, de plus en plus, il y avait des villes qui étaient créées un peu partout en Europe. Et ces villes-là réclamaient une certaine autonomie et se disaient « De quoi le pape se mêle? Hein? Nous, on est capable de s'organiser nous-mêmes. » Or, Catherine de Sienne était née non pas à Sienne, mais à Florence. Et Florence était la ville qui s'opposait le plus radicalement au pape. Et à tel point que la situation était devenue invivable pour les papes qui étaient à Rome. Les papes étaient devenus peureux, ils se sentaient pas aimés, pas accueillis, et ils avaient peur de prendre la parole qui était la leur et leur rôle qui était de diriger le troupeau. Et si donc, pendant un certain nombre d'années, les papes et les cardinaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plié bagages, ils ont dit « Si vous vous chicanez comme ça à Rome et entre les villes, nous on s'en va! » Ils sont partis vers le sud de la France, à Avignon. Donc, les papes ont habité là-bas pendant un certain temps et il paraît qu'ils étaient très bien traités. Ils manquaient absolument de rien. Or, Catherine de Sienne, qui voit cette situation, se dit « c'est intolérable ». Le pape est le chef de l'Église catholique romaine. Son rôle, c'est d'être à Rome. Elle prend donc sur elle d'aller voir le pape à Avignon. Et il réussit de tous ses moyens de le convaincre de revenir à Rome, puisque c'est la ville de l'Église catholique romaine. Elle ira ensuite du côté des villes du nord de l'Italie pour les convaincre que cette guerre interminable entre l'Église catholique et ces villes n'a pas de sens. Et elle va réussir. Ce sera donc une fine diplomate qui va faire le tour de l'Europe pour réussir à réconcilier les parties entre elles. Mais ce n'est pas pour son œuvre diplomatique qu'elle a été déclarée docteur de l'Église ou qu'elle est même copatronne de l'Europe, mais c'est d'abord et avant tout pour sa très profonde spiritualité. C'était une femme de prière, une femme qui avait des locutions intérieures, une femme qui avait des visions, qui avait des songes. On dit qu'elle a vécu un mariage mystique avec notre Seigneur. On dit aussi qu'elle a eu les stigmates, elle a reçu les stigmates comme Saint François d'Assise. C'est une femme qui ne faisait autre chose que de contempler Jésus crucifié qui, par son sang versé pour l'humanité, nous pardonne nos péchés. Ainsi donc, frères et sœurs, je crois qu'on a avec Sainte Catherine de Sienne un exemple d'une personne qui s'est engagé totalement à servir le Christ comme Jésus nous l'avait demandé. D'abord et avant tout, par un attachement aux Saintes Écritures, à la Bible telle qu'elle nous est proposée et comme Paul l'a enseigné. Par cet esprit de service qui fait en sorte qu'elle a été capable de reconnaître le visage du Christ à l'intérieur de ces ministres qui avaient été choisis pour le représenter sur la terre. Et par cette vie de prière intense qui l'a vraiment configuré totalement au Christ Jésus, prêtre pour l'humanité. Ainsi donc, frères et sœurs, inspirons-nous de l'exemple de Catherine de Sienne pour être témoins du Christ aujourd'hui dans notre monde et avec tous les défis que nous avons à affronter.